renouvelables,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratique, respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine, à Délirium Environnemental, comme d'habitude, on vous a concocté une belle revue de l'actualité. Au menu, donc, on parle de déchets nucléaires, et oui, ça existe encore, cette nuisance. On parle de mécanismes de développement propre. Est-ce que ça se peut, là? Appelez-nous pas pour nous parler de décroissance, développement, etc. On voit la nuance. Le mot officiel, c'est développement. Désolé de vous choquer. On vous parle, bien sûr, de changement climatique, de copons, de gaz à effet de serre, du Niger, de plein d'autres choses, bien entendu. Et on terminera l'émission avec nos coups de cœur, coups de masse. Mais avant de passer aux coups de cœur, coups de masse, on reçoit la vedette de Projet Montréal. L'une des vedettes qui est rentrée, qui va aller brasser la cage un peu, peut-être pas à l'hôtel de ville, mais au moins au conseil d'arrondissement, Émilie Tulier, donc, est avec nous cette semaine. C'est l'invitée. Au micro, pour vous divertir, mais surtout vous informer, en fait, je l'espère, Sofiane Legendre, en compagnie de l'équipe bionique, ma foi recomposée, on en est bien heureux. Nicolas Milot, bonjour.
Bonjour, en passant, n'oubliez pas, on n'a pas de téléphone.
Ah, c'est vrai, pas aujourd'hui. Nicolas Mainville, Mélanie Roussel, notre rookie officielle.
Bonjour.
Je vais bientôt arrêter de le dire, promis.
OK.
Mélanie et Émilie Tulier, bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence sans plus tarder. L'humeur de la semaine passée, pour ceux qui nous ont écoutés, c'était le manque de couverture médiatique de Projet Montréal. On est content. Certains conseillers sont rentrés et donc on aura l'occasion d'en reparler. Les médias en ont parlé un petit peu, mais c'est notre humeur, c'est la bonne humeur de cette semaine. Messieurs, madame, vous êtes heureux de voir ce qui s'est passé sur la scène municipale, pas tant à Montréal que partout ailleurs, parce qu'il semble que les élections municipales ont fait un gagnant, et c'est l'environnement.
Oui, je ne sais pas si on peut faire cette conclusion-là, mais bon, il y a des bonnes nouvelles quand même, effectivement, point de vue environnemental. Je pense qu'on a ressorti deux exemples d'hier. C'est les municipalités de Richelieu et Offord. Vous savez que à Richelieu, il y avait eu beaucoup de pression par les citoyens, point de vue développement des méga-porcheries. Et le maire sortant s'est fait soigner dehors, justement, parce que les citoyens étaient complètement révoltés par cette question de développement de méga-porcheries. Et puis, à Offord, vous savez, ce méga développement de nouveaux condos, 1000 pièces de condos pour le parc du Mont Offord, qui a fait tant de frustration chez les citoyens, ou en tout cas une certaine division dans la population là-bas, eh bien, a donné raison au nouveau maire qui vient de rentrer, qui est contre le développement de ce super projet de condo. Donc, c'est des belles petites annonces comme ça, point de vue élection municipale. Évidemment, on a la chance d'avoir Émilie Tulier aujourd'hui avec nous autres, qui est probablement la grande gagnante du dossier environnemental pour l'île de Montréal. Le message a été quand même assez clair hier soir. Le plateau Montréal qui vient d'élire deux candidats, dont M. Carl Boileau, qui est colistier de Richard Bergeron, conseiller de ville qui va maintenant rentrer, et puis Émilie Tulier, conseillère d'arrondissement, qui vont aller jouer dans les plates-bandes de Mme Fotopoulos dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Donc ça va être un plaisir de jaser de tout ça aujourd'hui avec Émilie.
Et ça, c'est sans oublier de mentionner que le pourcentage que Projet Montréal a été cherché aux élections dans l'ensemble, qui est tout près de 10%, est quelque chose d'hyper satisfaisant. Donc on voit que les idées véhiculées par ce projet-là sont quand même allées rejoindre un fort pourcentage de la population. Et le fait qu'on ait, bon, Richard Bergeron à l'hôtel de ville et Émilie à l'arrondissement, mais c'est qu'on va continuer à entendre ces idées-là de plus en plus être véhiculées, d'autant plus que le plateau Mont-Royal risque d'être un des quartiers à Montréal où ce type d'idée-là va s'implanter en partant. On risque de voir ces quartiers-là davantage ciblés, peut-être de par la nature de leur population aussi, mais pour justement essayer des projets peut-être petit à petit de tramway ou de ces fameuses avenues piétonnières-là qu'on espère bien voir arriver à Montréal. Moi, j'aimerais aussi y aller de mes certaines humeurs face à ces élections-là. Premièrement, ça a, bon, dans la scène environnementale actuelle, très peu de choses à voir, mais dans le passé, cet homme-là a sacrément fait mal à l'environnement. Je parle de Jean Garon à Lévis, qui s'est fait lui aussi soigner de bord, lui qui avait déclaré il y a à peine deux semaines que la pire chose dans le monde municipal, c'était l'opposition, que ce n'était qu'une perte de temps. Donc, moi, je dis à des personnes comme ça, ben allez à votre retraite, merci beaucoup, votre temps est fini. Et malheureusement, il y a toute qu'une déception. Oui, c'est existant, je m'excuse pas parce que vous êtes à votre retraite et vous faites plus rien, mais écoutez, lui, là, on peut lui en souhaiter une bonne. Et quand même, il y a une déception majeure, et en tant que gars de Québec, je la vis pleinement, André Boucher à Québec. Vous savez, si vous défendez la cause environnementale à Québec, Québec, les quatre prochaines années vont être excessivement difficiles. Elle qui se refuse obstinément à y aller de l'avant avec une amélioration, par exemple, des pistes cyclables ou de toute autre innovation en matière d'environnement. Donc, c'est inexpliqué, cette femme-là qui passe haut la main à Québec, sans campagne, sans équipe, sans programme. Bref, quatre années difficiles prochainement à Québec. Mais c'est fini.
Peut-être juste un autre petit commentaire sur le niveau de participation assez décevant, puis en fait, compréhensible. On parle, je crois que c'était 35% à Montréal, le niveau de participation à peine. Donc, je pense que ça témoigne, si on parle seulement de Montréal, à quel point qu'on a maintenu ça low profile entre les deux principaux partis. Quand on aborde...
C'est fait autour des nids de poules.
Exactement. Et on n'aborde aucunement les dossiers de fond, les projets de société, les projets d'avenir, quelque chose d'intéressant qui stimule la population. Et c'est, voilà, la conséquence.
Je trouve que c'est d'autant plus décevant, ce taux de participation-là, parce que s'il y a un palier de gouvernement, en parenthèse, qui peut vraiment avoir un impact sur la vie quotidienne des gens, c'est bien celui du municipal, parce que concrètement, dans un laps de temps relativement court, on peut mettre en branle des changements qui vont être profitables pour de longues années à suivre. Ben, bonne humeur, franchement, je suis contente, enfin. Souvent, c'est des coups de gueule en début d'émission. On commence avec une petite note positive. On est heureux pour Projet Montréal, heureux que les stratégies qui ont été mises de l'avant soient fonctionnelles. Puis moi, je serais bien curieuse, et on pourra en reparler en dernière partie de l'émission avec Émilie, de savoir quels sont les dossiers prioritaires qui risquent de se voir... poussé là sur la table en avant. On s'arrête tout de suite et au retour, on poursuit la revue de presse, revue de l'actualité. Je sais, c'est pas super original, mais on va vous parler de changement climatique.
C'est quoi ça?
Yeah, c'est ça. This is it. Retour à Délirium environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous rappelle que Délirium environnemental s'est rendu possible grâce d'abord à une équipe magique, à la mise en onde aujourd'hui, Claudie Théberge. Merci beaucoup d'être là. Le webmestre Étienne Côté-Palux, sans qui le site web n'existerait tout simplement pas. Vous trouvez le site au www.radiodelirium.net. En pensée, dans notre cœur, comme toujours, Patrick Bonin y est, bien sûr. Mais il doit fouetter d'autres chats. J'arrête pas de dire d'arrêter. Je vous ai tellement cruel. OK, je m'excuse. On poursuit la vitresse vu de l'actualité. Parlons changement climatique. On se souvient qu'il y a une espèce de guéguerre provinciale, fédérale. Wow, grosse surprise. Mais aussi dans le dossier des changements climatiques, on se souvient que M. Mulcair s'est chicané avec M. Dion. On ne voulait plus y parler. Pas d'affaires à négocier. Je comprends les souverainistes. Et le dossier a avancé, semble-t-il. Nicolas Milot, tu fais la lumière là-dessus.
Ah, je fais toute une lumière. Oui. C'est vraiment...
Une lumière éco-énergétique.
Une lumière qui est très importante à faire compte tenu du fait que le temps presse. On se rappelle que COP11 est à la fin du mois. On aimerait bien, en tant que pays hôte, avoir une entente digne de ce nom qui dirait au moins à la face du monde que le Canada, bien, c'est pas des tout nus, puis on est capable de faire notre bout, mais présentement, on est plus tout nu que pas tout nu. En tout cas, bref, il reste que l'entente est loin d'être ficelée.
Le meilleur pays du monde, Nicolas.
Et voilà, et on a les montagnes rocheuses.
Quand
voilà. Tout est beau. Mais bref, on se souvient que la semaine passée, Mulcair, ministre de l'Environnement, du Développement durable et des Parcs du Québec, il va d'une sortie fracassante, disant même qu'il comprend pourquoi les souverainistes sont à bout devant Ottawa, qui ne leur donne jamais rien. Donc, ce parti-là, stratégie fédérale, on pourrait y revenir. Mais toujours est-il que pour calmer peut-être le jeu, bien, Stéphane Dion, ministre de l'Environnement canadien, lui, il y allait en fin de semaine, donc vendredi la semaine dernière, d'une annonce, essayant de cibler un peu à quoi on s'attendrait du Québec en termes d'efforts au niveau la réduction des gaz à effet de serre. On se rappelle que le monde industriel, le secteur industriel, devrait réduire d'environ 45 mégatonnes les émissions de gaz à effet de serre. Et on a, dans le fond, le nœud des déboires fédérales, provinciales, touche à cette question-là, c'est qu'il y a des industries qui, depuis 1990, donc depuis l'année de référence sur laquelle est basé le protocole de Kyoto, eh bien, ont augmenté de façon faramineuse les émissions. On pense notamment à l'industrie pétrolière qui est principalement basée en Alberta et aussi un petit peu en Saskatchewan. Et on a, à côté de ça, des industries qui, plus au niveau de l'Ontario et du Québec notamment, elles ont réduit leurs émissions, ont fait des efforts notables depuis 15 ans pour réduire, même s'il y a encore des efforts à faire, il reste que certains pans de l'industrie ont réduit grandement. Et ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, Ottawa arrive dans son plan et nous dit, eh bien, on va dans le fond donner l'argent où est-ce qu'on peut réduire beaucoup. Donc, c'est dans l'Ouest. Mm-hmm. Et ceux qui sont dans l'Est, Québec, entre autres, eh bien, vous pourrez réduire moins, mais donc vous aurez moins de cet argent-là qui servira à réduire.
On se souvient que Mulcair réclamait notamment justement d'obtenir tout de suite 325 ou 350 millions. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique comment de l'argent va faire qu'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pour développer les nouvelles technologies.
Et voilà.
Tu donnes un petit coup de pied dans...
Mais là, tu te balances un petit peu mon propos, mais je pense que tu viens de toucher à un point central de cette question-là. C'est qu'on parle beaucoup d'argent dans cette question-là. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que on ne visera probablement pas au Canada à atteindre les objectifs du protocole de Kyoto en réduisant notre façon de vivre, réduisant notre consommation ou notre production industrielle, mais en injectant de l'argent pour motiver l'innovation, la création de nouvelles technologies. Donc, on est en train au niveau d'Ottawa d'essayer de faire en sorte que Kyoto ne soit pas un ralentissement à l'économie canadienne, mais au contraire, quelque chose qui accélère le rythme et les investissements qui sont chiffrés. On parle de 350 millions que Mulcair voudrait venir voir au Québec. Il y a déjà une entente de 538 millions avec l'Ontario qui a déjà été signée. Mm-hmm. Donc, c'est cet argent-là qu'on veut voir venir à Québec pour que Kyoto soit pas un frein, mais continue à stimuler l'économie.
Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les entreprises, on a deux options. Réduire nos émissions ou acheter des crédits d'émission. Et merci pour le micro. C'est vraiment le cœur de Kyoto qui est en train de s'installer. C'est les mécanismes de développement propre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que une entreprise qui est pas capable de réduire ses émissions va acheter des crédits de carbone. Et ce qui est en train de s'installer, ce mécanisme de développement propre-là, se fait à l'international. Donc, on va aller développer des nouveaux projets à l'étranger pour justement compenser les émissions qu'on fait ici au Canada. Bon, vous connaissez la game. Et puis, ce qu'on apprenait cette semaine, c'est que les premiers projets officiels de mécanismes de développement propre ont été émis. En fait, c'est les premières émissions, on les appelle les unités de réduction certifiées des émissions. C'est le gros terme pour dire qu'il y a finalement des projets officiels accrédités par l'ONU. C'est les deux premiers. C'est un partenariat entre l'Italie, la Finlande et le Honduras. Deux projets hydroélectriques au Honduras qui vont réduire de 54 000 tonnes d'équivalent CO2.
Je vais juste m'expliquer parce qu'on dit on comprend la game, c'est pas si clair. Ils vont réduire les émissions, ils vont aller construire ça au Honduras, puis c'est la Norvège et l'Italie qui vont profiter comme des points bonus Kyoto.
Exactement. Ces pays-là ont investi de l'argent dans ces projets-là. Le Honduras se retrouve au lieu d'utiliser le charbon ou le gaz naturel, va utiliser l'hydroélectricité, donc diminue d'environ 55 000 tonnes de CO2 leurs émissions. Et par le fait même, la Finlande et l'Italie retrouvent à gagner des crédits de carbone qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur propre industrie pour émettre du carbone.
Ça veut dire que quand à la fin de l'année, ils font leur total des émissions de gaz à effet de serre, ils ont une colonne ce qu'on a émis, ce qu'on a gagné en achetant d'autres pays ou en s'achetant la tranquillité, donc les plus et les moins, puis leur total va être cette belle équation-là.
Exactement. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs fonds qui sont en train de s'installer, se construire un peu partout dans le monde, des fonds monétaires par les entreprises. Les entreprises se mettent ensemble, injectent beaucoup d'argent pour pouvoir créer ces projets de développement propres-là un peu partout dans le monde. Et puis, le Canada est l'autre du plus important fonds mondial d'échange de droits d'émission. Il s'appelle le Net Source Assess Management. C'est situé à Calgary. On parle de 550 millions de dollars pour créer justement ce plus important fonds de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On parle de 26 entreprises de partout dans le monde qui se sont mis ensemble pour créer ce fonds-là. Et puis, c'est vraiment dans le but de financer les projets à l'étranger. Ce qui est intéressant, même si c'est basé au Canada, il n'y a aucune entreprise canadienne. En fait, il y a seulement une entreprise canadienne qui fait partie de ce fonds-là, qui est la société EPCOR. On s'en fout. Mais l'idée étant que les entreprises commencent à emboîter le pas. Et évidemment, tout ce qui va se décider à Montréal dans les prochaines semaines, à la COP11, à la conférence des parties ici à Montréal, ça va être justement justement comment qu'on met en boîte, comment qu'on emboîte les projets de développement propre et tous les questions d'échange de crédits de carbone, parce que le gouvernement canadien et les gouvernements en général, tous ceux qui ont ratifié le protocole de Kyoto, ont un très gros rôle à jouer. C'est là qui est le principal obstacle au l'avancement de la question de Kyoto et la réduction des gaz à effet de serre. Ça va tout se déterminer à Montréal.
Je sens dans ta voix que c'est un projet qui t'enthousiasme.
Ah oui, tout à fait. Ben en fait, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses.
Oui, parce qu'il y a une chose, le fameux projet Finlande-Italie-Honduras, ce projet-là ne réduit rien.
Non, c'est ça.
Ce projet-là fait juste se baser sur des émissions futures, virtuelles, qui n'existent pas présentement, et on se dit, les émissions futures, on va les empêcher en faisant tel projet. Sauf que le problème, c'est qu'il faut réduire à partir de ce qui existe présentement. Donc, ces projets-là peuvent entraîner un développement plus responsable, mais on n'a pas encore commencé à réduire.
J'ai l'impression, moi aussi,
c'est
un peu
ça. Ça dépend. Il y en a des exemples qui sont beaucoup plus concrets. Par exemple, mettre des surfaces sceller les piscines de lisier de porc, par exemple, en Amérique du Sud, on diminue de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre, de méthane. C'est des exemples très concrets, là, mais bon, bref, il y a plusieurs possibilités d'investissement. Et puis, je pense que, bon, il y a une possibilité intéressante, point de vue développement intéressant. Mais c'est tout le temps évident que ça montre la paresse des pays occidentaux et la non-possibilité de réduire la croissance économique.
De réduire à la source nos émissions de gaz à effet de serre, plutôt toujours essayer de compenser en allant acheter le droit de polluer, parce que pour moi, ça sonne des crédits aux droits de polluer. Si on constate que les GES, c'est de la pollution. On s'arrête ici quelques secondes. Au retour, on poursuit, on continue en parlant de changement climatique, parce que c'est important et surtout parce que la COP11 s'en vient en grands pas. Ceux qui ne seraient pas encore fait une tête là-dessus, je vous invite à aller voir au www.rendezvouscitoyen.org. Tout d'un coup, avec des frais d'union, je m'excuse, c'est au choix. Vous aurez tout ça, bien sûr, sur notre site à nous. C'est au www.radiodelrium.net. Retour à Delirium environnemental. On poursuit sur la lancée de la revue de presse, revue de l'actualité. On continue sur le sujet de l'heure. Mais ouais, j'espère que c'est chaud et que... Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'espère que l'arbre ne cache pas la forêt. Ma langue est encore fourchue. Je m'excuse. On poursuit donc sur les changements climatiques. Qu'on pense qu'il s'en vient? On mentionnait pendant la petite pause pour vous rafraîchir les neurones qu'il y a plusieurs mesures individuelles par les individus qui peuvent être prises, notamment de faire vous-même l'exercice de calculer quelle est votre empreinte écologique en termes de gaz à effet de serre que vous émettez chaque année. Encore une fois, je vous référerai au Centre québécois d'action sur les changements climatiques qui va vous référer vers une foule de liens pour aller faire remplir ces calculs-là. Il y avait Environnement Jeunesse aussi qui avait un enjeu, donc qui a un compteur disponible sur leur site Internet. C'est très intéressant. Vous allez voir que parfois, par des petits gestes simples, vous pouvez changer le monde.
Ce qui est intéressant aussi, c'est les gens, Mélanie, on en parlait pendant la pause, les gens qui veulent, par exemple, aller en voyage et qui se sentent un peu coupables d'émettre autant de gaz à effet de serre, ont l'option sur des sites Internet d'aller acheter des crédits de carbone. Et cet argent-là va être investi dans des projets de développement propre à l'international ou dans des compagnies états-uniennes ou canadiennes qui développent les énergies alternatives.
Ça me fait penser à la porno au service de l'environnement. Mais je vous laisse sur votre appétit. Je vais vous en reparler plus tard. C'est une grande découverte cette semaine pour moi. On poursuit. On voit qu'il y a des gens ici qui connaissent ça. Le sourire est automatique. Oui, ça vient de la Norvège, un peu comme le concept de développement durable. Décidément, là-bas, ils ont le tour de nous faire sourire.
Fuckforest.com.
Exactement. Mais il fallait que tu gardes le suspense. Tu connais rien en marketing.
C'est que je travaille dans le monde de la forêt.
Ah, c'est ça qui arrive. Est-ce que tu fuck for the forest toi-même à tenter dans le livre?
On passera ça à la deuxième.
On est sur le suspense, tout le monde. Vous allez peut-être voir Nicolas Mainville sur le site de fuckforest.com. On poursuit donc le changement climatique. On parlait tout à l'heure de l'effort qui est fait au niveau des industriels parce qu'on sait que bon, ben, le transport est responsable en grande partie des gaz à effet de serre, le transport des individus, mais si on fait une espèce de tarte pour essayer de voir qui est responsable, l'industrie est responsable en grande partie des gaz à effet de serre.
Dans le fond, je veux juste terminer cette nouvelle parce que tu m'as complètement coupé la
parole. Ah non, pas pour de vrai.
C'est incroyable.
Une autre fois.
Tu m'en fais une coupe. Hein? Mais bref, c'est pour dire tout à l'heure, je vous ai parlé que le secteur industriel canadien devait réduire de 45 mégatonnes. Et bien, pour apaiser, entre autres, la petite discorde de Ottawa-Québec, bien, le ministre Dion, à la fin de la semaine dernière, a statué que le Québec devrait participer à hauteur de 7% sur ce 45 mégatonnes-là. Donc, dans le fond, ne pas trop mettre de pression sur le secteur industriel québécois. Sauf que au Québec, réduire de une tonne, par exemple, coûte à peu près présentement 20 à 25 fois plus cher que réduire de la même quantité en Alberta. Donc, c'est bien beau de nous en demander moins, mais ça nous coûte pas mal plus cher le faire. Bref, ça reste à suivre. Le monde n'est pas content. Ça chicane, ça crie fort. Tout le monde en vire bleu et voilà, merci M. Mulcair for President.
Mais Ville, tu poursuis parce qu'une des autres stratégies qu'on met en place pour répondre justement à ce grand défi des changements climatiques, c'est de vouloir stocker le carbone, emprisonner le carbone pour éviter que ça contribue à, etc.
Et oui, puis là, on parle pas de méga projets d'injection de carbone dans les anciennes nappes de pétrole, et on parle bien de forêts. Vous savez que les arbres font la photosynthèse et captent donc le CO2 en transformant en protéines et en cellules végétales.
Et bien, comment c'est tellement
bien fait. Faut laisser les arbres debout, par
exemple. C'est incroyable. Et puis, bon, c'est sûr que le Canada est un des plus grands promoteurs de cette super question de stock de carbone par le biais des forêts. Mais il faut comprendre que, bon, c'est encore très controversé puisque la forêt capte le carbone sur une période déterminée. C'est-à-dire que le carbone va toujours circuler. Le cycle du carbone est constant. Il ne s'arrête pas une fois que c'est fixé par les arbres. Mais bon, je veux vous parler d'une nouvelle qui est sortie dans Science de cette semaine. C'est une étude assez intéressante sur le lien entre la diversité biologique et l'influence des changements climatique, c'est-à-dire qu'on a découvert par le biais de simulations que les forêts vont stocker plus de carbone si elles sont plus biodiversifiées, ce qui est extrêmement intéressant puisqu'on met en parallèle deux facteurs extrêmement importants au point de vue intégrité écologique. On sait que les changements climatiques influencent la diversité biologique, surtout en zone tropicale, et puis là je parle de zone tropicale principalement puisque cette étude-là a été faite au Panama.
Négativement? Positivement?
Qui influence, c'est très négatif. Ce qu'on observe en ce moment, c'est sûr qu'on est encore dans le très court terme puisque bon, les changements climatiques vont s'observer sur de très longues périodes. Mais bon, la forêt tropicale semble très mieux réagir et capter beaucoup plus de carbone lorsqu'elle est biodiversifiée. Et on observe une variation jusqu'à 600% de captation de carbone, dépendamment si c'est une forêt qui est peu diversifiée ou très diversifiée. Et c'est là qu'on lance une flèche directe à toutes ces méga projets de captation de carbone par le biais de plantations de monoculture. On sait que les forêts tropicales très biodiversifiées, puisqu'il y a interaction dans l'écosystème, les systèmes végétaux et animaux vont interagir et vont être beaucoup plus dynamiques point de vue croissance, donc vont capter plus de carbone, tandis que si c'est des plantations, exemple monoculture d'eucalyptus ou de pin, ben on se retrouve à pas fixer tant de carbone que ça comparativement à une forêt biodiversifiée. Intéressant
donc,
comme lien.
Donc ça voudrait dire que par exemple la forêt boréale au Québec va moins bien stocker le carbone qu'une forêt tropicale.
Ben ça, c'est déjà connu, mais okay. Sauf qu'il faut comprendre que les sols en forêt boréale sont très épais. On a environ 2 mètres d'humus en forêt boréale, et donc ça contient énormément de carbone. Okay. En fait, il y a beaucoup plus de carbone dans la forêt boréale que dans la forêt tropicale. La forêt tropicale a très peu de matière organique au sol parce que ça se dégrade très rapidement à cause de la chaleur et de l'humidité, tandis que ça s'accumule dans les sols en forêt boréale. C'est pour ça que la forêt boréale est le plus grand puits de carbone au monde. Incroyable.
Quelle richesse sous-estimée. Pourtant, nous, on coupe qui mieux mieux autour de bras.
Mais voilà. Donc, c'était la nouvelle. Allez lire ça dans Science. C'est intéressant parce que ça va de pair avec le combat de protection de la biodiversité et lutte au changement climatique. Je pense que c'est un filon qu'on devrait suivre et peut-être regarder ce qui se passe au Québec. D'ailleurs, on a souvent cette tendance à aller faire du reboisement, monoculture, replanter l'épinette noire. pas la bruche pour le coup du Québec pour l'instant.
Je trouve ça beau comme nom d'arbre, la bruche.
Mais bon.
Excusez, j'étais mal ramassée.
Alors voilà, c'est tout.
Ben, merci beaucoup, ça a été très intéressant. Pour ceux qui voudront lire plus amplement, bien sûr, cette nouvelle-là sera mise disponible sur notre site internet que vous trouvez toujours au www.radiodelirium.net. Non, je n'arrêterai pas de le répéter pour ceux qui sont allés de l'attendre.
C'est si beau, hein?
Radiodelirium.net. On aime tellement ça. Ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. On se laisse en musique avec The Breastfeeders. C'est un groupe québécois à découvrir vraiment officiellement à la première écoute. C'est un peu choquant, mais après, on ne peut plus s'arrêter. Mais c'est un peu choquant parce que c'est un petit peu trash. Mais je vous ai choisi une belle petite chanson, toute douce, que je dis à tous ceux qui ont le cœur en charpie.
Une petite balade.
Ben,
ça, c'est les allaiteurs.
Ah, pas de...